Pour certains, le bonheur serait dans le pré. Pour d'autres, il se joue dans le niveau de vie à atteindre. Pour d'autres, enfin, le bonheur passe par la réalisation de différents dépassements de soi. À Vue d'Esprit vous emmène cette semaine ailleurs, dans une quête du bonheur en 5 étapes avec un psychologue et une théologienne. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue.
À Vue d'Esprit. Michel Cocher.
Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Le bonheur à la porte, c'est le titre de cette série que vous nous proposez cette semaine, avec la théologienne Lita Basset et un psychologue Manfred Engeli.
Oui, Lita Basset, on la connaît bien ici sur Espace 2. Elle intervient régulièrement sur les ondes. Et chaque fois qu'elle publie un livre, on peut le dire, c'est un véritable succès de librairie. Le dernier livre qu'elle a publié, c'était « Au-delà du pardon, le désir de tourner la page » en mai dernier. Et on retrouve déjà ce livre en tête des ventes de l'été. Alors, Lita Basset, on la retrouvera plutôt du côté de la fin de la semaine, à partir de jeudi dans cette émission. Mais aujourd'hui et jusqu'à mercredi, je vous propose de découvrir un psychologue bernois, Manfred Engeli, qui vient d'écrire un petit livre sur le bonheur.
Alors, un livre sur le bonheur, 5 étapes, c'est ce qu'on évoquait en introduction. Quoi, on est dans les recettes pour goûter au bonheur ?
Pas du tout. Le livre de Manfred Engeli associe réflexion spirituelle chrétienne et expérience de psychologue et de psychothérapeute. Manfred Engeli a exercé pendant de nombreuses années sa profession de psychologue à Berne, dans un centre privé. Aujourd'hui, il est à la retraite et il continue de dispenser des formations autour de l'accompagnement des couples et des familles, notamment dans les milieux protestants de sensibilité évangélique.
Alors, rendez-vous donc avec un psychologue germanophone ?
Effectivement, mais vous allez l'entendre, il parle remarquablement le français. Alors, la première question que je lui ai posée, c'est celle des raisons qui l'ont poussé à écrire un xième livre sur le bonheur, Manfred Engeli.
Ce qui me pousse à écrire sur ce thème, c'est que je vois que l'homme recherche le bonheur. Et dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont constaté que pour finir, ils ne l'avaient pas trouvé.
Alors vous-même aujourd'hui, en publiant ce livre, vous l'avez trouvé ce bonheur?
Je crois que je suis en train de le chercher et dans un sens, je crois que j'ai fait un chemin. Je pense aussi que dans mon travail avec des personnes de tout âge, hommes, femmes, couples, j'ai découvert peu à peu quelle était cette recherche du bonheur au fond des personnes.
Alors si vous aviez en quelques mots à la décrire, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ou vers quoi l'homme aujourd'hui tend-il pour effectivement être heureux, être makarios comme vous le dites?
L'homme semble avoir en lui-même comme un savoir ou une sorte de mémoire du fait que l'homme a été créé pour une vie simple et une vie dans la paix. Parfois je me suis dit c'est comme si l'homme avait un souvenir un peu du paradis. Et que cette recherche du bonheur est liée à ce besoin profond. Cette paix, je crois, elle est une paix qui n'est pas seulement une paix en soi, mais une paix où, avec tout ce qu'on vit, et surtout aussi dans les relations, on se sent vraiment en paix. Il y a comme un ordre et une vie simple et juste. Et je crois que l'homme a comme la sensation que c'est possible, que ça devrait être possible.
Le sous-titre de votre livre s'intitule « Chemin vers le bonheur ». En fait, le visage du bonheur que vous proposez au travers de ce petit livre, quel est-il?
Ce bonheur est peut-être plus profondément ce que l'homme cherche, mais extérieurement, l'homme croit pouvoir atteindre ou trouver le bonheur. D'abord parce que c'est faisable dans le domaine des circonstances extérieures, de sa vie matérielle. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont fait l'expérience qu'on peut aboutir là à avoir les conditions extérieures qui pourraient dire « maintenant je peux être heureux ». Et quand ils ont atteint ce but, ils se rendent compte que le bonheur ne réside pas dans ce qu'ils ont gagner dans la vie.
Ou bien concrètement, il leur en faut encore davantage.
Il leur faut davantage et surtout, ils se rendent compte que, bon, ça peut tourner vers une recherche qui va toujours plus loin dans le sens d'un peu plus de richesse, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que, pour finir, ce bonheur-là n'est pas ce bonheur dont ils ont vraiment envie.
Donc vous-même, vous rompez avec cette logique de l'acquisition matérielle qui comblerait un cœur vide pour dire que le bonheur est avant tout de type relationnel.
Tout à fait, oui. Et je pense que là, il y a pour moi une autre réalité que j'ai rencontrée dans mon travail, c'est que le bonheur relationnel, il ne peut pas être trouvé uniquement au niveau de nos relations avec les autres, mais qu'il y a encore une autre dimension relationnelle dont l'homme semble avoir besoin. Et je crois que l'homme a envie d'être en relation avec quelqu'un ou avec quelque chose qui dépasse son existence individuelle. Je suis arrivé à la conclusion que l'homme, en tant qu'être relationnel, avait besoin d'une relation pour finir avec quelque chose qui serait soit Dieu, soit quelque chose ou quelqu'un qui est à la place de Dieu. Et pour arriver au bonheur, on a besoin de vivre cette vie relationnelle avec cette dimension qui dépasse l'existence individuelle et la dimension relationnelle avec les autres êtres humains et aussi avec soi-même.
Manfred Engeli, vous avez une longue carrière de psychologue et de thérapeute. Quand vous avez accompagné des gens, quand vous continuez aujourd'hui à les accompagner, cette dimension de la présence d'une transcendance est importante dans le vis-à-vis avec la personne que vous accompagnez?
Pour moi personnel, elle est très importante. Comme j'ai déjà dit, je sais par exemple que la personne, je le savais toujours, que la personne qui est en face de moi, elle a besoin d'être aimée. C'est, je crois, le besoin le plus profond de l'homme. Et pour s'épanouir, pour croître, pour devenir adulte, pour devenir quelqu'un qui peut être debout dans la vie, nous avons besoin d'être aimés. Et du fait que je sais, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, que cet amour est là de la part de Dieu aussi pour cette personne, cette dimension est devenue très importante pour moi. Ça ne dépend pas du fait si cette personne que j'ai en face elle-même comprend ou vit dans cette relation avec Dieu. Ça ne change pas grand-chose pour moi du fait que je sais que Dieu est là et que Dieu l'aime et que quelque chose peut-être même de son amour peut traverser ma personne pour atteindre la personne en face de moi. Donc cet élément est important pour moi. Si cet élément était une dimension de la vie des personnes avec lesquelles je travaillais, ça me semblait une possibilité incroyablement forte, grande, pour pouvoir l'aider. Il y avait comme là une dimension en plus qui dépassait de loin les possibilités que j'avais de personne à personne à intervenir pour faire du bien à la personne.
Et si cette dimension n'était pas là, est-ce que ça changeait quelque chose dans votre accompagnement, dans votre thérapie?
Ça changeait quelque chose dans les possibilités que j'avais à disposition, comme par exemple pour les personnes avec lesquelles j'ai pu travailler sur la base de la foi. Il y avait la possibilité de s'adresser ensemble à Dieu, de prier ensemble, de demander à Dieu d'intervenir. Tandis que si je travaillais avec des personnes qui elles-mêmes n'avaient pas cette dimension dans leur vie, je pouvais le faire dans mon cœur, je pouvais demander au Seigneur d'être avec ces personnes, mais cet apport de leur foi n'était pas là. Et ça, dans un sens, c'était comme une sorte d'handicap qui ne me permettait pas d'avoir toutes ces possibilités que j'avais avec les personnes qui avaient la foi comme dimension dans leur vie.
Manfred Engeli, lorsqu'on vous écoute parler de votre activité de psychologue, de thérapeute, on vous entend parler passablement de Dieu, de l'amour. Dans votre petit livre, vous dites que Dieu veut le bonheur de chacun. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela aujourd'hui, alors que souvent, quand même, dans une sorte de religiosité populaire, quand il nous arrive une tuile, quand il nous arrive un pépin, souvent on a à l'esprit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter tout ça?
Ça, c'est une question intéressante que j'ai rencontrée souvent aussi dans mon travail. Et je pense que tout dépend de la définition que nous avons de l'amour de Dieu. Pour beaucoup de personnes, il y a vraiment quelque chose comme un Dieu tout-puissant qui existe, qui est peut-être très lointain, mais qui est là. Et on attend de ce Dieu qu'il soit, pour finir, un Dieu qui manipule les choses pour nous. Et du fait qu'il nous aime, il intervient pour nous éviter toute difficulté. Et si on définit l'amour de Dieu de cette façon-là, on peut arriver à la conclusion que Dieu n'avait pas du tout aimé son fils, par exemple, qui a dû mourir sur une croix. Et Dieu a permis que ça se fasse. Et c'est un choc pour beaucoup de personnes que ce Dieu d'amour soit capable de laisser mourir son fils. Mais je crois que là, il y a quelque chose de très important. J'ai constaté que si on considère Dieu comme quelqu'un qui empêcherait le mal, on ne comprend pas que si on aime quelqu'un, et Dieu nous aime, on laisse la liberté à l'homme. Et on laisse à l'homme la liberté de faire même ce qui le détruit. Dieu, tel qu'il nous est montré dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, est un Dieu d'amour, mais qui nous laisse la liberté, et par ce fait, il n'évite pas les difficultés, mais il intervient dans les difficultés, il les porte avec nous, il les traverse avec nous. Et pour moi, une des très grandes promesses de la Bible, c'est cette promesse que pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu, toute chose devra concourir au bien. C'est dans cela que je vois cet amour de Dieu, qu'il peut transformer même les choses les plus difficiles de notre vie. Et ça nous est arrivé, des choses difficiles dans notre vie, il peut les transformer en quelque chose qui nous fait croître, qui nous fait grandir et qui permet même que notre amour pour lui puisse encore augmenter.
Vous-même, dans votre vie concrète, votre vie de famille, votre vie personnelle aussi, est-ce qu'il vous est arrivé en certaines circonstances de douter de cet amour de Dieu, de vous dire en vous-même, mais écoute, c'est pas possible de croire à cela au vu des circonstances que je traverse?
Bien sûr que ça nous est arrivé. Pendant de très longues années, nous avons eu vraiment une vie aussi extérieurement parlant, où tout le monde autour aurait peut-être dû dire, voilà, une famille sans problème. Et puis sont intervenus d'autres moments. Nous avons 5 enfants. Il y a notre 3e enfant, un fils, qui on a trouvé un cancer à l'âge de 29 ans et qui est mort à l'âge de 30 ans avec ce cancer. Et moi, un peu plus d'une année après, j'avais aussi le diagnostic d'un cancer et un arrêt de mort médicalement parlant. Il y avait bien des moments dans notre vie où nous aurions vraiment pu douter de cet amour, de ce Dieu. Mais une chose qui m'a frappé une fois en traversant toutes ces difficultés, ces souffrances, ces questions que nous avons vécu vraiment aussi en tant que famille avec nos enfants qui ont accompagné aussi leurs frères à travers tout cela. Une chose qui m'a beaucoup frappé une fois, c'est de découvrir que ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ou de comprendre qu'il est un Dieu d'amour, ce ne sont pas les événements, mais ce sont nos questions et c'est notre interprétation de ce qui nous arrive. C'est là où il y a le problème. Et j'ai constaté dans mon travail aussi que avec la question du pourquoi, pourquoi moi? Pourquoi ceci? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? À cette question, nous n'aurons jamais de réponse. Il y a une autre question qu'on peut se poser, mais qui ne nous est pas très naturelle. c'est la question à quel but? Qu'est-ce qui peut en résulter? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, même les choses difficiles?
Et là, vous avez parlé tout à l'heure du décès de votre fils à 30 ans. Vous pouvez entrer dans, disons, dépasser la question du pourquoi et vous dire dans quel but? Est-ce que c'est pas, quelque part, refuser la question qui prime, le pourquoi?
Pour moi, ce qui prime et ce qui a primé aussi dans cette situation, c'était de vivre honnêtement dans la réalité de chacun, avec les émotions qui étaient là, avec la foi qui était là, avec les questions qui se posaient, c'était de vivre ensemble la réalité de je ne sais pas comment dire, de ce vécu vraiment existentiel pour chacun, d'être honnête les uns face aux autres, de parler ouvertement, parce que il y a toujours de nouveau d'autres questions qui se posent quand la maladie progresse. Il y a d'autres choses qui nous préoccupent. Et c'est ce qui m'a semblé très important, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi souligné dans mon travail, c'est d'apprendre à vivre ce qu'il y a honnêtement aujourd'hui, maintenant. Et je crois que beaucoup de questions que nous nous posons, elles nous empêchent ou elles réduisent cette vie honnête de ce qui est maintenant en moi, dans l'autre, d'échanger, de voir ensemble qu'est-ce que ça déclenche chez nous. Je crois que à travers ces questions, nous fuyons très souvent de la vie réelle qui se passe aujourd'hui et maintenant.
Donc finalement, dans cette période, j'imagine entre 29 et 30 ans de votre fils, où vous avez vu ce cancer se manifester, pour vous, les questions pourquoi empêchaient véritablement de vivre l'instant présent pleinement.
Tout à fait, oui. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, je ne sais pas ouvertement en parlant, mais je crois que chacun a décidé de se refuser à cette question et de dire « je vis ce qui est maintenant et c'est le plus important et c'est ce qui m'apporterait aussi le plus ». Dans un sens, cette question du pourquoi, je pense que chacun s'est posé cette question, mais d'autre part, nous avons décidé de ne pas nous laisser arrêter dans ce que nous vivions à travers cette question.
Et cela, vous l'avez fait à cause de votre confiance en Dieu?
Tout à fait, oui. Du fait que je considère Dieu comme quelqu'un qui est vraiment amour. Et je crois que c'est très important. S'il est amour, il ne peut pas agir autrement que de cette source de l'amour. Nous, les êtres humains, nous avons de l'amour. On peut en avoir un peu plus ou un peu moins, mais si Dieu est amour, c'est tout à fait différent. Même si je ne comprends pas pourquoi il le fait, si je peux prendre au sérieux que ce qu'il fait actuellement n'est pas en dehors de son amour, parce qu'il ne peut pas agir en dehors de son amour, je peux arriver à dire oui à ce qui est, tout en souffrant, tout en disant « j'aimerais pas que ce soit la réalité, mais j'accepte que ce soit la réalité ». C'est la réalité. Et de vivre dans cette confiance, dans un sens que même si je ne comprends pas le pourquoi, Dieu a un plan, il a un but. Et le but est bon parce que ce but est lié à son amour. Pour notre fils, pour nous, pour ses frères et sœurs, pour chacun concerné, pour finir.
Manfred Engel, est-ce que rétroactivement, vous vous dites que ça a été la meilleure manière de vivre ce départ de votre fils?
Je pense que oui, pour nous et je crois aussi pour lui. Ça a permis que nous ayons un contact très très intense les uns avec les autres, par des moments d'échange, des moments de prière. Nous avons vécu cette relation avec lui d'une façon, encore une fois, très profonde, très personnelle, aussi personnalisée dans le sens qu'il nous a rendu les choses faciles, peut-être, en cherchant vraiment avec chacun encore ce contact individuel, avec moi en tant que père, avec ses amis aussi, en approchant vers la fin de sa vie, il avait comme envie de faire avec chacun encore quelque chose dont il pouvait vraiment se réjouir pleinement avec cette personne. je crois que pour lui aussi, cette approche de rester dans cette confiance que le but de Dieu est un but bon à travers cette souffrance et à travers le fait d'approcher la mort, je pense que ça lui a permis à lui aussi de vivre pleinement jusqu'au dernier jour, vraiment jusqu'au dernier jour.
Et là, concrètement, vous diriez que ce chemin de séparation, ce chemin de deuil, était vraiment un chemin vers l'expérience makarios, comme vous dites, vers l'expérience du bonheur.
Je dirais que oui. Parce que ce qui a été le résultat de ce chemin, c'est la paix. Une paix intérieure, une possibilité aussi de prendre congé de notre fils. Il a pris congé de chacun. Dans un sens, ce qui est resté après, c'était le deuil, c'est évident. C'est cette perte, il nous manque, mais il y a la paix. Nous pouvons comme dire, Dieu a bien fait. C'est quelque chose que nous exprimons par la foi d'un côté, mais où il y a comme ce témoignage en nous que, à travers ce chemin, nous avons abouti dans cette paix.
Manfred Engeli, vous-même, en tant que psychologue, en tant qu'auteur d'un petit livre sur le bonheur, vous avez parlé de Dieu, de son importance pour entrer dans ce chemin makarios, comme vous dites, mais il y a aussi quelqu'un qui est fondamental sur ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que pour vous, la personne de Jésus donne un visage particulier au bonheur?
Il me semble que oui, je pense qu'il a, lui, à travers ce qu'il a dit, aussi donner une autre compréhension, une autre définition de ce bonheur. Je pense que quand lui il a utilisé ce terme qui est traduit en grec par makarios, il était probablement lui aussi en contraste avec son temps. Parce que le bonheur que les hommes ont recherché, c'était jamais ce bonheur-là qui pouvait comprendre la souffrance. C'était toujours dans un sens cette recherche d'un bonheur qui nous évite justement la souffrance.
Et oui, qui est un bonheur de puissance. Le Christ dira « Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui sont persécutés ». Finalement, tout le contraire d'un véritable programme un peu démagogique de ce que pourrait constituer le bonheur aujourd'hui et de son temps aussi.
Tout à fait, oui. Et personnellement, je suis arrivé à la conclusion que s'il dit justement « Heureux les pauvres », etc., toutes ces choses, ce sont des choses que lui, il a vécues. Alors, dans un sens, il dit aussi, je le vis et je ressens que je suis bienheureux dans tout cela, malgré tout cela, dans tout cela. Donc, il y a comme quelque chose comme cette paix intérieure qui, pour moi, est étroitement liée à ce terme de makarios, qu'il a vécu au milieu de toute cette vie difficile, d'être contesté, d'être persécuté, etc., d'être abandonné par les hommes. Donc, au milieu de tout cela, c'était, malgré tout, cette paix en lui. Et je pense que chez lui encore, on voit que cette paix, me semble-t-il, est étroitement liée à sa relation avec son Père au ciel. Parce que je crois que il est comme ancré dans cet amour du Père. Et dans cet amour du Père, il rencontre cette appréciation, il rencontre ce oui total du Père, cette joie du Père d'avoir ce Fils. Et c'est pour finir cette relation avec le Père qui lui permet d'avoir la paix, de rester intérieurement libre aussi face aux hommes, au milieu de tout ce qu'il vit. C'est ce qui m'a beaucoup touché de découvrir que chez lui aussi ce bonheur, justement cette forme de bonheur makarios, elle se trouve en lui à cause de sa relation avec le Père.
Manfred Engeli, c'est le nom du psychologue que vous avez rencontré pour nous, Serge Carrel, et il est l'auteur d'un livre dont vous nous rappelez le titre.
Oui, le titre de ce livre, c'est Makarios, heureux en grec. En fait, il y a une petite histoire à propos de ce livre, c'est que j'en ai eu la primeur, parce que ce bouquin n'est pas encore paru. Il devrait sortir de presse prochainement en allemand comme en français.
Alors demain, nous poursuivons notre série à vue d'esprit avec le psychologue et psychothérapeute Manfred Engeli.
Oui, nous parlerons du développement de notre capacité relationnelle, de notre capacité à aimer, une dimension fondamentale pour Manfred Engeli dans la quête du bonheur.
Merci Serge, rendez-vous pris. Donc demain, à vue d'esprit pour une nouvelle édition de cette série intitulée Le bonheur à la porte. Demain, 16h30, merci d'être resté en notre compagnie. Carmen Algarada a réalisé cette émission. Serge Carrel et Michel Cocher vous souhaitent à tous et à toutes une excellente fin d'après-midi à l'écoute de la Radio Suisse Romande, Espace 2.